Par-delà les montagnes hallucinées et Club JDR, enregistrement audio par Skype d'un scénario de jeu de rôle dans l'univers de Cthulhu Invictus. Le maître de jeu est Jean-Michel Abrassard. Les joueurs sont Nicolas Tupé-Gabet de Podcast Science, David alias Xilrian de la chaîne YouTube Xilcast, Xavier du podcast dont vous êtes le héros, et Guillaume Vendée des podcasts Tech Café et Comme des poissons dans l'eau. Salut à tous et bienvenue dans Club JDR, je suis Guillaume Vendée et vous nous retrouvez pour une nouvelle partie de jeu de rôle dans l'univers de Cthulhu, mais un univers un petit peu différent de celui qu'on a l'habitude de connaître. Le scénario de ce soir est mené par Jean-Michel. Salut Jean-Michel.
Salut Guillaume.
Jean-Michel Abrassard de Scepticisme Scientifique et puis le podcast qui va bientôt changer, c'est ça? C'est Par-delà les montagnes hallucinées, mais vous allez bientôt changer de titre.
Exact.
Et puis nous retrouvons Nicolas Tupé-Gabet de Podcast Science. Salut Nico.
Salut.
Comment vas-tu?
Super bien. Super.
Ça a l'air en tout cas.
Je me sens un druide depuis quelques minutes, c'est...
Bah, magnifique. On sent que ça te met en joie en tout cas. On retrouve également David. Salut David, comment vas-tu?
Salut Guillaume, ça va, en forme. Et toi?
Pleine forme, sauf que j'ai entendu un bruit Skype, j'espère que personne ne nous a quittés. Ça a l'air d'aller en tout cas. Et puis Xavier du podcast dont vous êtes le héros, salut Xavier.
Hey, salut Guillaume, salut les amis, comment ça va tout le monde?
Écoute, je crois que tout le monde va très bien, tout le monde est très motivé pour commencer ce scénario en tout cas. Jean-Michel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va avoir le droit de jouer ce soir?
Bien sûr, oui. Donc, on va jouer un scénario qui s'appelle The Devil's Mouth, donc la bouche du diable, hein, et qui est un scénario pour Cthulhu Invictus, donc dans un supplément qui vient de sortir. Je l'ai reçu après avoir kickstarté ça. Je l'ai reçu il y a 15 jours, je crois, et donc j'ai eu très envie de vous le faire jouer. Le livre pour les meneurs de jeu qui sont intéressés, c'est mon latin est vraiment foireux, donc excusez la prononciation du mauvais latin. De Horrore Cosmico, hein, ça c'est le titre du livre. Et le scénario précis qu'on va jouer, c'est The Devil's Mouth. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cthulhu Invictus, c'est un setting extrêmement populaire à l'heure actuelle pour l'Appel de Cthulhu, qui est l'Empire romain au 1er siècle. Et ça a vraiment explosé. Hein. Au début, l'auteur avait fait une plaquette de l'Appel de Cthulhu que Chaosium pensait qu'il ne se vendrait pas du tout. Et puis, c'est devenu un des settings les plus populaires de ces dernières années. Voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin.
On a une chance de survivre ce soir ou pas?
T'as ton Gladius avec toi ou pas? Ben voilà, oui. C'est le challenge de l'Appel de Cthulhu avec des gens qui sont armés avec des épées, des boucliers.
Ben écoute, sans autre forme de procès, je te propose qu'on attaque tout de suite, Jean-Michel.
Sûr. Donc l'action du scénario se passe en 140... Oui,
J'allais dire, je conteste. Moi, je suis pas armé du tout, hein, d'après ce que tu m'as dit.
Non, t'es pas armé du tout, toi.
Moi, a priori, j'ai des compétences, mais j'étais pas au courant que j'avais une arme.
De toute façon, dans l'Appel de Cthulhu, on vous donne un bazooka, ça vous sert à rien, donc ça change rien, c'est toujours la même chose. Bref, on est en 142 après Jésus-Christ, et nous trouvons donc dans la partie de l'Empire romain qui s'appelle Britannica, donc évidemment l'Angleterre, et vous faites partie d'une expédition qui est en train d'être menée vers la Calédonie. Si je prononce ça correctement, c'est toujours le problème de prononcer le ladin. Mais en fait, évidemment, c'est Caledonian Forest, donc dans les forêts de Calédonie, et c'est évidemment en réalité dans notre vocabulaire contemporain l'Écosse. Mmh. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous accompagnez un patricien romain qui est autre que celui du nageoire, hein, qui s'appelle Decimus Vatinus Calvus.
Pour la vache.
Qui est un il rigole pas, c'est romain. Qui est un diplomate romain influent qui mène cette expédition dans les terres donc écossaises, hein, avec un natif qui l'aide, qui s'appelle Mamilius Lentulus. Et donc, ils ont organisé cette expédition. Ben pour l'instant, au début du scénario, vous ne savez pas trop pourquoi, sauf évidemment le patricien. mais je reviendrai là-dessus plus tard. Et donc, tout ce que vous savez, c'est que vous êtes déjà en expédition depuis un certain moment, au moment où le scénario démarre. Vous avez passé le mur d'Adrien et vous avez atteint, il y a un jour ou deux de ça, le mur d'Antonin, donc, qui est en train d'être construit en l'an 142. Et au-delà, vous rentrez définitivement dans les territoires des Pictes. Oui, pour ceux qui... Cthulhu Invictus, en fait, ça, pour activer les bons trucs au niveau imaginaire, en fait, vous pensez à Conan le Barbare, hein, parce que Conan le Barbare, avec ses Pictes, c'est un peu le contexte, quoi. Robert Howard était très fan de participer au mythe de Cthulhu, donc c'est un peu l'ambiance là, hein. Sauf que c'est plus historique évidemment. Mais... Donc voilà, vous savez, ces Pictes, c'est des sauvages qui habitent au-delà du mur d'Adrien, qui sont tatoués, c'est vraiment des barbares, quoi. Et vous rentrez en territoire Picte au début de ce scénario. Alors le patricien qui est joué par chez vous,
David Xil.
Ah oui, c'est David qui joue le patricien, ouais. En fait, toi, tu es un collègue de Quintus Lollius Urbicus, le gouverneur de Britannique.
Rassure-moi, Jean-Michel, faut pas qu'on se souvienne de ces noms.
Écoute, c'est un ami à toi, tu gères.
C'est quand même ton meilleur ami, mais vu que c'est ton meilleur ami, tu as sûrement un surnom pour lui.
Oui, bien vu. c'est donc Quintus Lollius Urbicus, c'est le gouverneur de Britannia à cette époque, hein. Et il t'a demandé en fait de te joindre toi à l'expédition pour surveiller que les négociations, parce que toi tu sais évidemment, tu es au courant qu'il va y avoir des négociations avec une tribu picte pour qu'elle rejoigne l'Empire romain, et tu es là en tant qu'observateur pour s'assurer que tout se passe bien et puis pour ramener à Rome au gouverneur de l'Angleterre, de Britannica, et puis peut-être à Rome des bonnes nouvelles, hein, si les négociations. Donc là, toi, tu es en tant qu'observateur sur le terrain. Les deux autres personnages, donc le centurion et qui est joué par?
C'est moi. Ouais, Xavier. Donc j'incarne le centurion Adaptus Carius.
Voilà. Bien, forcément, on est en territoire picte, donc l'expédition est lourdement armée, évidemment, puisque c'est des tribus qui ne sont pas affiliées à l'Empire, hein, une fois que vous avez passé le mur d'Adrien, puis le mur d'Antonin, vous rentrez dans un territoire de plus en plus hostile, donc forcément, il y a des centurions avec, et il y a aussi des auxiliaires, donc des non-romains qui ont rejoint l'armée, et ça, c'est joué par
Ave Guillaume.
Et Guillaume, qui est un vil gaulois, si mes souvenirs sont bons.
Absolument.
Il va représenter fièrement les Gaulois.
Tu enlèveras le mot fièrement.
Et qu'est-ce qu'un druide fout avec nous, du coup?
Il y a le druide. Il a un rôle très précis à jouer dans l'expédition. C'est que les Pictes, ils ne parlent pas le latin. Ils ne parlent pas la langue commune de l'Empire. Et donc, le druide, en fait, par défaut, il pourra jouer... le rôle de traducteur, en fait, hein, d'interprète, je veux dire. Et donc, il est là en tant qu'interprète. Lui, évidemment, c'est un druide qui vient du sud de Britannica, hein, il ne vient pas du territoire picte, mais on va dire qu'il maîtrise suffisamment la langue picte pour pouvoir communiquer avec ses sauvages, quoi.
Voilà, et donc, c'est moi le druide.
Voilà. Ça va, c'est clair pour le background ?
Très clair.
Parfait. Ça va. On a deux sociaux et deux bourrins.
En résumé, c'est bien ça. Ouais.
Et on accompagne quelqu'un faire des négociations avec Cthulhu ou un grand ancien quelconque. Ça, on le sait pas encore.
C'est toujours la compagnie là qui n'est pas du tout préparée à attaquer le mythos, quoi. Donc ça sent bon d'avance.
Oui, donc l'expédition est super bien organisée, hein, parce que c'est la façon de faire romaine. Donc ce brave Calvus, hein, le responsable romain, en fait, il a envoyé des hommes à l'avance pour installer des pré-camps, et puis vous avancez, vous rejoignez ces camps dans des structures qui ont déjà été préparées, en tout cas un minimum. Donc bon, évidemment, maintenant, ça fait un mois que vous êtes en expédition et maintenant, vous rentrez vraiment dans le territoire le plus hostile et forcément, vous êtes dans de la. Enfin, vous imaginez l'Écosse dans une époque où il n'y a pas de route, etc. Donc, c'est de la forêt vraiment très dense.
Comme c'est... maintenant, presque.
Ouais, j'allais dire déjà qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui.
Voilà quoi.
Mais ce qui veut dire, c'est sans Wi-Fi aussi.
Ouais, c'est aussi. Et donc, au tout début du scénario, vous avez passé donc le mur Antonin, vous êtes dans le territoire Picte, et on va commencer juste par une petite séquence où vous êtes assis à un feu. Pourquoi ? Parce que vous avez à votre campement, hein, parce que un des scouts, un des éclaireurs de l'expédition. Donc, il y a pas mal d'hommes, il y a une vingtaine d'hommes. En plus de ceux qui sont envoyés avant vous pour installer les camps. Enfin, ça c'était surtout avant, puisque vous arrivez presque au bout de l'expédition. Un des scouts a ramené, a tué un sanglier, et donc ils ont décidé de. C'est un peu jour de fête, hein. Ça fait déjà un mois que vous êtes en voyage, donc. Et donc ils mettent le sanglier à rôtir pour les hommes, pour les centurions, etc., les auxiliaires. Et d'ailleurs, il y a aussi le médecin de l'expédition qui fait un peu le tour pour vérifier la santé de tout le monde. Et c'est un peu soir de fête. Et donc, à un moment, normalement, le leader romain, donc Calvus, il ne se mêle pas à la plèbe, hein, c'est pas son style, quoi. Donc vous n'avez pas pu vraiment interagir avec lui, sauf le patricien, évidemment, qui voyage en sa compagnie. Mais les autres, ils n'ont pas le droit de parler à Calvus. Mais là, comme c'est un jour de fête, Calvus se mêle un peu... à ces hommes, hein. Et il vous explique donc effectivement, comme je l'ai expliqué, la mission consiste à aller négocier avec une tribu picte dont le village, donc c'est une tribu qui s'appelle les Vacomagi, et vous devez aller à Tuessis, qui est leur village, ville principale au bord d'une rivière. Vous êtes à un ou deux jours de marche de là maintenant. Et donc, il faut absolument... Enfin, le but de la mission, il est très important pour le leader romain, c'est que vous rencontriez le chef de cette tribu, donc Colosse, pour négocier avec lui le fait que sa tribu se mette au service de Rome, ce qui serait évidemment une grande victoire, puisque ça permettrait d'assurer la domination romaine sur une bonne partie de l'Écosse. Et après ça, évidemment, c'est encore la fête qui continue. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Ou est-ce que vous avez des questions ? Réactions ?
Il nous reste combien de kilomètres avant qu'on arrive à notre but ?
Bah écoute, ils n'ont pas une distance exacte parce qu'ils ne connaissent pas super bien le territoire, mais ils pensent qu'ils seront là, que vous serez là-bas dans plus ou moins deux jours. Tout dépend aussi de la difficulté à laquelle vous avancez dans la forêt. Parce que par exemple, l'auxiliaire et le centurion, souvent, ils doivent être en tête de la colonne et couper les branches pour avancer, pour que les patriciens puissent se déplacer. La progression n'est pas super rapide, c'est ça que j'essaie de dire.
Cette branche était mal coupée.
Et notre soldat Gaul dans le groupe, comme tu as déjà dû nous parler un peu de ces terres, mais est-ce que tu sais exactement dans quel endroit on se trouve ?
Ouais, malheureusement, je ne connais pas du tout cet environnement, je le découvre en même temps que vous en fait.
Non, très bien, très bien.
Je pense que c'est le druide, le connaît de réputation.
Nicolas. Et toi, le nain, le druide.
Le nain. Ah, le druide, t'as bien une histoire ou deux à nous raconter de cet endroit-là?
Ouais, ben moi je le connais de réputation. Enfin, je vis plutôt dans le sud, mais je sais que c'est une forêt qui est assez dense et qui va prendre du temps à traverser.
Environ deux jours.
Tu sais aussi que le druide. L'idée générale que vous avez des Pictes, c'est que c'est vraiment des combattants féroces. Ils attaquent nus sur le champ de bataille. C'est pour dire que les soldats romains ne sont pas forcément super rassurés quand même. pour les Pictes, c'est vraiment des entre guillemets barbares. Hein. Voilà, ils sont tatoués et puis ils foncent sur les armées romaines nus, vu juste avec de la boue sur le corps. Ils attaquent et donc ils ont vraiment une réputation d'être d'être des brutes, quoi. Et alors que vous êtes en train de discuter de ça, il y a donc ce brave Lentulus Mamilius, donc qui est le natif, hein, qui travaille avec le Romain, donc Calvus. Il se joint à votre conversation et donc lui, il a grandi en Écosse, hein. Mais maintenant il travaille pour l'Empire, quoi. Et il dit ouais, c'est vrai que les Pictes sont vraiment des gens horribles. Et il commence à évoquer des légendes que certains de ces tribus Pictes vénèrent un sombre dieu loup. Et qu'une de ces tribus, vous voyez qu'il y a une sorte de voile noire qui tombe sur ces vieux, comme s'il avait un peu peur juste en y pensant, qui s'appelle les Kusites. C'est une tribu de Pictes qui sont ni des êtres humains ni des animaux, mais qui ont la capacité de se transformer en loup à volonté. Et parfois, il vous dit qu'on raconte que la nuit, il y a des meutes de Kusites qui attaquent les caravanes, enfin les voyageurs dans cette ère.
Et elle vit dans quel coin, cette tribu?
Plus ou moins, vous êtes.
Intéressant.
C'est intéressant de faire griller un sanglier comme ça.
Il se change en sanglier aussi de temps en temps.
Oui, alors il y a un autre homme qui s'appelle Strabo, qui est un responsable de la caravane, qui est aussi un natif, qui dit « Ouais, moi j'en ai vu un jour, j'ai vu un de ces hommes se transformer en loup devant mes propres yeux. » Et il a aussi l'air pas très rassuré, quoi.
Je peux lancer un test de psychologie pour voir s'il nous baratine ou pas, s'il
a l'air. Insight.
Insight plutôt.
Oui, oui.
Ok. Pense. Parce que ouais, j'ai que psychologie, j'ai pas insight.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait insight dans le groupe.
Ouais, moi j'ai insight.
Ah bah, je crois que c'est une tâche pour toi en fait.
Ok, donc faut que je lance un test d'insight avec un dé de combien du coup?
C'est toujours des 100. Des 100, ouais, 2D10. Hein.
Ok.
Pour les dizaines, pour les unités, voilà.
Ouais, je sais, ils sont marqués comme ça. Juste que je me remémore parce que la dernière fois que j'ai joué c'était avec un Jenga.
Et merde.
Je suis à 74, sachant que j'ai à 50 d'insight.
Oh,
donc ça a l'air mal barré.
Oui, là, c'est... À moins que tu dépenses de la chance, mais pour 14 points, enfin, c'est à toi.
Je pense que pour cette fois-ci, ça vaut pas trop le coup, là, pour l'instant.
Ouais, donc tu ne sais pas trop dire, hein, tu ne sais pas trop dire à quel point ils ont vraiment peur, ou est-ce qu'ils... En tout cas, si Strabo a vraiment vu ce qu'il raconte avoir vu, ou est-ce qu'il vous baratine, tu ne sais pas, quoi.
Voilà, désolé.
Moi, j'affiche une mine, en tout cas, assez réservée, assez sceptique. Je ne me laisse pas gagner par des racontards pareils, et je regarde plutôt le sanglier qui rôtit en attendant de pouvoir en avoir une part.
Ouais, moi, j'essaie de toucher un mot à l'autre patricien, et, histoire de voir un petit peu comment il sent tout ça, s'il est très enthousiaste à fond, ou craintif, ou ce genre de choses. Ah, on se rapproche du village, oui, c'est le
oui,
moment.
Tu vois que Calvus est en train de superviser, évidemment, la préparation du sanglier, puisqu'il a décidé aujourd'hui exceptionnellement de se mêler à ses hommes. Il est là avec sa toge, et quand il te voit arriver, oui, il te sourit, il est content. Il est content qu'il y ait un autre civilisé avec lui, quand même. Et il fait, oui, on y est presque. Avec un peu de chance, d'ici quelques jours, on a encore augmenté le territoire de Rome pour la gloire de, l'Empire.
Mais en fait, petite parenthèse, alors là, c'est mes méconnaissances totales d'un point de vue historique, mais en gros, la conquête de l'Empire romain, c'était bon, à la fois des batailles, j'imagine, mais c'était aussi des négociations, c'est ça, pour aller marchander avec des barbares, pour en gros leur demander à rejoigner l'Empire, mais c'est quoi leur avantage, quels sont les, comment ça se passe par rapport à ça? Enfin, je suis peut-être pas censé le savoir en tant que personnage.
Non, mais ça n'a pas d'importance. Ici, en tout cas, c'est vrai que dans le scénario, l'idée générale, c'est effectivement. D'après ce que je sais, évidemment, je suis pas historien non plus, mais en réalité, l'Empire romain n'a jamais réussi à conquérir l'Écosse. Hein. Donc ça, c'est historique. Mais ici, en fait, le scénario, c'est que le gars essaye. Bizarrement, il y a des choses horribles qui vont vous arriver. Je crois pas que c'est voué à un grand succès son expédition. Enfin,
ah, bon. Spoiler.
Merci. On va changer le cours de l'histoire, c'est pas grave.
Mais ici vraiment voilà, son idée c'est d'aller parler à cette tribu, tu vois, et de lui dire si vous devenez notre représentant sur ce territoire, ben nous on vous fournit on fait évidemment du troc, etc.
D'accord. Donc, il y a un aspect commerce.
Et surtout aussi un avantage militaire, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent apporter un soutien, envoyer des soldats depuis le mur d'Antonin, etc. Donc c'est ça qu'il va aller proposer au chef. Hein.
D'accord. Ok.
Très bien. Toi, David, t'as l'impression que Calvus, il est vraiment super. En tout cas, ce qu'il te dit, hein, ce que tu perçois de lui, c'est qu'il est super motivé, il est super enthousiaste. C'est un gars hyper ambitieux, ce que t'as peut-être pas forcément toi. Et pour lui, évidemment, réussir un tel coup d'éclat, ce serait exceptionnel. Et bon, il s'approche de la cinquantaine et il c'est déjà un vieux vieux patricien. Et il espère revenir à Rome couvert de gloire, quoi. C'est ce que tu sais de lui, en fait, hein.
Rien que des choses très très normales, enfin quoi, très prévisible dans sa situation.
Oui, bah oui. Ça va. Alors le lendemain, si on peut passer à la scène suivante, alors vous êtes en train de progresser, donc le centurion et son acolyte, hein, donc c'est l'auxiliaire, vous êtes un peu à l'avant puisque vous êtes fameusement, vous vous souvenez, vous êtes en train d'essayer d'un peu défricher le terrain. Et donc juste avant que la nuit ne tombe le jour suivant, hein, donc une journée a passé, vous avez bien progressé, mais vous découvrez, donc vous êtes toujours dans de la forêt assez dense, hein, et vous apercevez suspendu à un arbre le corps d'une femme et d'un enfant. Et les corps sont suspendus la tête en bas, et ils ont visiblement été apparemment dépecés vivants, quoi. Enfin dépecés en tout cas, donc il manque la peau sur les chairs, quoi.
C'est des Pictes.
Sans la peau, ça va être dur à dire. Ouais.
Est-ce qu'il y a des jets de santé mentale dans Victus?
Oui, il y a toujours des jets de santé mentale. Vous pouvez me faire un petit jet de santé mentale.
J'aurais mieux fait de me taire.
Ouais, 18 réussi.
87, je pense que je rate.
Aïe, aïe, aïe.
Et vous comparez à quoi, là, pour la santé mentale?
Tu lances ton descend.
Mon san, ouais.
Moi, j'ai fait 83. T'as mal barré aussi.
Ceux qui ont raté perdent 1 et ceux qui n'ont pas raté perdent 0.
On avait combien au début
de... Moi j'ai fait 10.
C'est ton score, donc tu diminues. Le score sur lequel tu viens de lancer, ça le diminue.
Mais San, tu le vois pas parce qu'il y a le chiffre dessus, je pense. C'est juste à côté de la case de la série Case Insane.
D'accord, donc je diminue de 1 en fait.
Ouais. Donc tu peux clocher sur le 49.
Jean-Michel, j'en profite pour repérer un peu du spot hidden, hein, donc pour chercher les petits détails sur les corps. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des stigmas ou quelque chose de spécifique? Stigmata ou je sais pas.
Oui, si tu regardes les corps de plus.
Tu veux que je te fasse un jet ou...
Ah, pour l'instant, pas encore.
Ok.
Donc, ce que tu arrives à déterminer comme ça pour l'instant, juste en regardant les corps, c'est qu'effectivement, L'un devait être un corps de femme et l'autre d'un enfant. Hein, donc voilà, qui ont été suspendus comme ça à cet arbre.
Moi, je me dis que c'est des gens qui l'ont peut-être bien mérité.
Et moi, justement, sur ce truc-là, je checkerais bien dans mes connaissances si c'est une tradition picte.
Ça, c'est un geste sous Britannica, alors.
Non, alors, par contre, j'ai pas des tonnes en Britannica, mais on va tenter. Bah, ça passe, je fais 2.
Oh putain, ça.
Donc ça passe carrément là. Là, je devrais avoir
ah,
tout
oui,
l'historique.
Oui, t'as fait un très bon score. Ouais. Non, ça ne fait pas partie des traditions pictes.
Amis, ça n'est pas normal. Là.
Ça n'est pas normal. La seule chose que tu te dis peut-être à ce stade-ci du scénario, c'est que mais à cette fameuse tribu, donc il y a les Pictes et puis il y a les Coussites, hein, donc les fameux, ceux qu'on vous a expliqué, qui sont peut-être des loups-garous. Et ça, toi, tu les connais pas, parce que tu n'es même pas certain que ce soit pas une légende, simplement. Dis, ceux-là, c'est peut-être le genre de choses que les Coussites feraient, quoi. Ce qu'on en a parlé hier.
Moi, j'explore autour de la zone où les deux cadavres sont suspendus pour voir s'il y a des traces de pas, traces de pas de bêtes, même si je ne crois pas un seul mot de cette histoire de loup-garou. Mais...
Ouais, de même, qu'on soit deux au moins là-dessus, qu'on cherche du tracking, quoi, qu'on voit un petit peu s'il y a des gens qui sont passés là. Mmh. Traces de pas, odeur, quelque chose, laine accrochée à un arbre.
En tout cas, Xavier, ton personnage, quand il observait les corps, je disais qu'ils avaient été dépecés, mais tu vois quand même qu'ils ont été aussi, quand tu les regardes de plus près, évidemment, qu'ils ont été fort rongés, mais c'est parce qu'ils sont suspendus à une hauteur où les loups, etc., peuvent les atteindre, donc ils ont été attaqués par des charognards, certainement. Pour aller plus loin, il faudrait peut-être un jet de médecine, alors, par contre. Mais je pense pas qu'il y ait... Je sais pas si quelqu'un a de la médecine. En fait, j'en sais rien, je connais pas vos caracs.
Moi, j'ai du first aid, mais first aid, ça aide pas, moi aussi.
Non, ça serait médecine.
Moi, j'ai 1%.
Ouais, il faut toujours lancer, qui sait.
Ah, moi aussi, j'ai 1%, ouais. Et on est tous
1%. Non,
j'ai essayé. J'ai fait 7, pas loin.
J'ai fait 23, je suis assez loin, là, du 1%.
Oui, donc tu ne saurais pas en dire plus, tu n'as pas de culture médicale suffisante.
Je regarde la corde, si jamais elle pourrait vaguement donner des indices, genre, je ne sais pas si les Pictes ont une manière différente de faire des cordes que les cordes romaines ou je ne sais trop quoi.
D'accord, et tu es en train d'observer la corde de plus près, tu te penches vers la corde et tu sens une goutte qui te tombe sur la main à ce moment-là.
Je regarde vers le haut et d'où provient la goutte. Ça provient des deux cadavres ou de quelque chose d'autre?
Tu te rends compte que, évidemment, t'as jeté un coup d'œil à la sensation que t'avais eue. En fait, effectivement, c'est du sang qui t'a goûté dessus. Et tu regardes vers le haut et tu vois qu'il y a un cadavre suspendu dans le même arbre. Mais ça doit être à peu près à 15 mètres de haut.
Est-ce qu'il est bouffé par des animaux de la même manière que les deux qui sont atteignables par des animaux?
Il n'est pas bouffé de la même façon, non, parce qu'il n'est pas facilement atteignable. Évidemment, la première chose que vous pouvez me faire un jet d'idée. Ça c'est sous... Oui, c'est intelligence. Ouais, c'est sous intelligence. Oui. En
fait. J'ai très bien réussi.
Raté, moi.
Moi aussi, j'ai réussi à 24 sur 80.
J'ai réussi à 6 sur 70. Donc
je vous rappelle qu'il y en a un qui pose en intelligence. Là.
Je suis en réussite critique.
J'ai une réussite. Par contre, juste petite parenthèse, Jean-Michel, pour les règles. Ouais. Si on réussit le supérieur droit, tu veux qu'on te le dise comment?
Tu fais supérieur droit, réussite difficile, et inférieur droit, exceptionnel.
Ah, donc réussite exceptionnelle. Difficile, du coup.
Une réussite exceptionnelle.
J'ai juste une réussite, moi.
Ouais. De toute façon, tous ceux qui ont réussi, en fait, ce que vous voyez dans les hauteurs, vous tournez tous pour regarder ce qu'il y a, en suivant le regard évidemment de celui qui observait la corde, et vous vous rendez compte, vous découvrez le spectacle. Et c'est un adolescent, hein, dans la force de l'âge, donc quelqu'un qui va avoir une vingtaine d'années, enfin 18, quelque chose comme ça. Un gars assez fort, imposant, et la première chose que vous dites, c'est que pour avoir été le suspendre entre 15 et 20 mètres de haut, il a fallu vraiment une force imposante, que c'est pas quelque chose qui aurait été facile à faire dans cet arbre-là, quoi. Vous vous demandez bien comment on a pu l'amener là, Et vous faites un jet de santé mentale quand vous réalisez ça.
Ok.
Oh, 5. Nickel.
Raté.
Ah bah moi, ça passe aussi, mais de justesse.
On avait bien 40 hein, de base dans santé mentale, c'est ça?
Ça dépend de tes carac.
Tout le monde a, ouais. Ah non, c'est un peu différent pour tout le monde.
Moi, j'ai plus que 40, ouais.
Ça dépend combien t'as mis dans tes carac, en fait.
Je pense que j'avais 40. Enfin, il y a un 40 qui apparaît au-dessus de Sanity.
Bon, oui, bref, normalement, il a calculé pour toi en fonction de tes caractères. Si ça apparaît, c'est que c'est que ça. Donc, si vous avez réussi, vous perdez rien. Si vous avez raté, vous perdez encore un.
Et on se calme, les gars.
c'est des pertes de santé mentale parce que vous voyez, voilà, c'est comme
alors, si vous alliez dans l'antre. On est à l'avant de la caravane, c'est bien ça?
Ouais, pour l'instant, ouais.
Ok, bon, c'est un peu arrêté. Je vais m'adresser à tout le monde. Les compagnons, je pense qu'il serait raisonnable de couper les cadavres des arbres et de les cacher pour pas que le reste de la troupe voie cela. Ça pourrait baisser le moral très rapidement.
Une bonne idée.
C'est compliqué à couper, par contre.
De quoi?
Celui qui est super haut, je sais pas trop comment on va faire.
On le laisse, lui. Personne va le voir. C'est pas grave.
Bon, niveau roleplay, je regarde si un dispositif aurait permis de... Enfin, s'il y aurait des traces sur l'arbre d'un dispositif ayant permis de monter ce cadavre très haut dans l'arbre.
Oui, tu peux faire Spot Hidden.
Ok. 51, je vais dire si je réussis ou pas. Je sais que j'ai boosté mon Spot Hidden.
Par contre,
je sais pas que... suffisamment boosté. J'échoue.
D'accord. Oui, tu ne peux pas trop dire. Ça ne te dit rien.
Avec Guillaume, tu sais, on voulait observer un petit peu l'endroit, regarder s'il y avait des traces de pas, oui. Des choses autour de l'arbre, ouais.
Oui, vous pouvez faire tracking alors, track.
Merde, je l'ai pas celui-là. Ah si, track, ok.
Vous avez tous 10% par défaut de toute façon.
Mais... Oh, un échec.
Échec également. Pour l'instant, j'ai quand même tout raté, hein, tous mes jets.
Bienvenue à Toulouse.
Oui, bon, vous en sortez bien. Vous avez quand même, en général, réussi pas mal de jets jusqu'à présent, sauf lui. Mais...
On est toujours vivant, ça veut dire qu'on est bien, ouais.
Ouais. Bah, si vous n'avez pas réussi au jet de tract, effectivement, vous ne trouvez pas de traces. Donc, la terre est trop dure, ça n'a pas laissé assez de traces. Tu ne sais pas dire, quoi. Donc, si j'ai bien compris vos intentions, vous détachez la femme et l'enfant et vous cachez les corps, quoi.
Ouais, on n'a pas le temps de les enterrer, on va juste les cacher. Ouais.
Je laisse les soldats s'occuper de ça.
Ouais, vas-y, je m'en occupe, moi. Je sors mon glaive et puis hop.
Ouais, moi aussi, je laisse faire.
Y a personne qui veut monter à l'arbre pour essayer de détacher celui qui est tout
non,
en haut.
Non.
Moi, j'y vais, moi. Je vais m'en occuper.
Oh, tu vas te casser la goule. T'as combien
non,
en plein
ça va aller. Non, mais c'est juste qu'il y a peut-être un homme qui va le voir ou tu vois, c'est autant enlever tous les détails, quoi.
Tu veux qu'on te laisse tout seul pendant que tu le fais?
Je veux bien, si jamais je glisse, que tu sois en bas, comme ça tu peux me rattraper.
On va te laisser explorer le haut de l'arbre et puis on va se reposer dans le petit bar à côté pendant ce temps-là.
Pour grimper dans l'arbre, tu dois faire réussir 3 jets de climb.
Oh là 3 là, jets. C'est foutu.
Aïe, aïe. Bon allez, c'est parti. Hein. Donc le premier...
Il est encore temps de changer d'avis. Difficile.
Ouais, donc ça va, tu progresses bien.
Une réussite difficile, voilà.
Tu trouves des branches, ouais. C'est...
Deuxième jet, une réussite exceptionnelle.
Waouh, ouais, écoute, vous êtes, les autres en bas sont vraiment impressionnés.
Il a l'habitude de tricher avec ses livres dont vous êtes le héros, alors c'est normal.
Eh, c'est quoi ces histoires, merde?
Moi, je pense que tricher avec un livre dont vous êtes le héros, faut vraiment pas avoir une grosse estime de soi. Ouais.
Attends, celui que je suis en train de lire, là, on prépare la vengeance du ninja, purée. Alors, si tu veux pas tricher, tu vois, j'en suis à ma 7e lecture. Hein. Purée. Allez, 3e jet.
Ouais, vas-y, fonce.
Et c'est une réussite difficile.
Waouh, wow, c'est un bon escaladeur. Hein.
Quel talent.
Ouais, là, il y a...
Bon, j'ai 70 en climb. Hein.
Ouais, mais enfin, ça va, quoi. Ouais t'arrives en haut... Et tu dois tendre le bras un peu. Tout ce que tu peux faire, en fait, c'est couper la corde pour que le corps tombe, quoi.
C'est ça.
Tu coupes la corde et pff, le corps tombe. Bah, voilà. Et
j'inspecte le corps, du coup.
Ouais. Et celui-là, tu regardes le corps et il a aussi été dépecé comme les autres, mais celui-là, il n'est pas du tout endommagé. Et quand tu le regardes, tu te demandes ton personnage se demande vraiment comment ils ont pu dépecer un corps de cette façon-là, de, aussi précis, quoi. C'est vraiment un travail incroyable d'enlever toute la peau de ce corps-là, quoi.
Ouais, je précise que justement à ce sujet-là, moi je regardais pas le corps tomber et je l'inspecte pas plus que ça pour éviter de perdre des points de santé mentale complémentaires.
Ok. Très bien. Pour l'instant, je pense que vous en êtes déjà assez perdu pour la vie des corps, donc je ne demande pas plus de jets. Ok. Ça va, vous êtes satisfait avec la scène? Vous avez caché les corps?
Là, on n'est pas mal.
J'aimerais descendre, moi.
Oui, bah, je te laisse. Tu sautes, hein.
Non, aïe, aïe. Allez, hop, choup.
15 mètres.
Je vais éviter. Je le sens pas.
Allez, c'est l'heure de descendre, alors.
C'est quoi, 3G aussi?
Bah oui.
Fais chier. Ok, bon allez.
C'est à la descente qui va tomber.
Donc le premier jet, une réussite difficile.
Ok.
Troisième jet, une réussite difficile. Oh la vache. Et le troisième jet, réussite exceptionnelle.
Waouh. Wow.
J'ai fait un 3 sur le dernier.
Ah, donc c'est vrai qu'il triche en fait. On peut créer une chatroom.
Ouais, allons tous sur Rollsborg.
Mais je triche pas, c'est pas juste.
Vous voulez que je diffuse en direct? Non, mais on peut créer une chatroom sur Rolls.
Ok, ça va. Mais donc, effectivement, vous cachez bien les corps et puis vous reprenez la route, hein, et vous continuez à progresser dans les Highlands, hein, les terres. Enfin, les Highlands. Pas la peine de traduire.
Excuse-moi, c'est trop tard peut-être, mais en fait je me disais, comme on passait tous devant, personne n'est interpellé par une odeur particulière, un truc comme ça, et du coup par extension je me demande, je vais te demander, est-ce qu'on a une idée via l'odeur, un truc comme ça, du temps depuis pendant lequel ils ont pourri ces corps à l'extérieur, est-ce que c'est frais, pas frais, etc. Mais j'imagine que c'est trop tard.
Non, et puis ça, c'est vraiment typiquement sous la compétence médecine, en
d'accord,
fait.
D'accord, okay. Ok.
Ton personnage n'en a même pas l'idée, en fait.
D'accord, sinon... ok. Allons-y.
Et donc, vous progressez dans les Highlands et vous traversez, de toute façon, de plus en plus des... par les territoires, vous avez en tête les paysages écossais, de toute façon. Et vous atteignez finalement la fameuse rivière sur laquelle vous savez, enfin le leader romain Calvus avait expliqué que la ville se trouvait le long de cette rivière. Donc une fois que vous avez atteint la rivière, vous n'avez plus qu'à suivre le long de la rivière pour atteindre cette fameuse ville, hein, qui s'appelle donc Thuesis, la ville des Pictes, Vacomagi. Et donc, à la fin de la deuxième journée, vous apercevez maintenant, vous êtes sur une colline et vous apercevez depuis la hauteur de la colline la fameuse ville ou le fameux village des Vacomagi. Hein. Et vous pouvez me faire un jet de Spatiden.
Alors, on le fait dans Rolls, du coup. Allô? Il y a quelqu'un?
Pour les auditeurs et pour vous, les gars, je vous ai envoyé une impression écran de mes jets, hein. Non mais...
ouais. Moi, j'ai raté mon Spotty Dan. Okay. 74, j'ai raté aussi.
Aussi.
Je regardais du mauvais côté.
Personne n'a réussi, alors?
Non.
Eh bien, décidément, vous n'êtes pas bon en Spotty Dan, hein. On sait que vous êtes bon en escalade, mais pas en Spotty Dan.
Ok. Donc on grimpe quelque part ou ça va?
Donc le village, ce que vous pouvez de toute façon voir, c'est que le village est composé.
Attendez, j'ai pas fait le mien encore.
Ah vas-y.
Ça y est.
Alric 1037.
Donc réussite exceptionnelle.
Donc réussite, juste une réussite.
D'accord. Donc ce que je disais, c'est que le village est évidemment composé de sortes de maisons en chaume, hein, ou des huttes, hein, avec des murs en pierre et des clôtures en bois, hein, qui sont, donc c'est vraiment une sorte de ville, mais enfin une ville, vous imaginez, à l'époque, hein.
Est-ce qu'on voit de l'activité ou pas?
Eh bien, justement, le jet de Spotty Dan, c'était celui que je demandais. Et le personnage de Xavier, le centurion romain, l'œil aux aguets, le seul à remarquer qu'effectivement, il y a étrangement absolument aucune activité. Tu remarques en premier, Xavier, que tu ne vois personne dans la ville. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fumée de feu, pas de fumée qui sort des maisons. Tu sens qu'il y a ton instinct de centurion te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, ton regard s'arrête sur des corbeaux qui sont arrêtés sur certaines des clôtures. Normalement, s'il y avait des gens, ils n'oseraient pas aller si près des habitations, quoi.
Et est-ce que je peux essayer de trouver... Qu'est-ce que je vois d'autre, comme par exemple l'odeur? Est-ce qu'il y a une certaine odeur qui émane du village, comme s'il y a eu un feu récemment, ou ça sent la moisissure
Pour l'instant, t'es encore un peu loin. T'es trop loin pour ça. Hein. T'es sur une colline assez lointaine, donc c'est juste la première vue que vous avez du village que je donne, quoi. Mm-hmm. Et les autres n'ont rien remarqué de spécial, quoi.
Ok. J'ai un mauvais pressentiment, là. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas grand-chose. Il y a... quasiment aucune activité, et on peut voir aussi pas mal de rapaces qui flottent au-dessus, enfin qui volent au-dessus du village.
Mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que on s'attendait plutôt à avoir un village hostile ou qui allait nous faire chier, donc...
Ouais, mais je pense qu'en effet, mais là, je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave, donc je propose qu'on mette en avant les offenses et qu'on y aille très doucement à l'intérieur, au cas où un piège nous attend.
Oui, donc Calvus, le leader de l'expédition, entend ce que tu dis, hein, et il arrête toute l'expédition, effectivement. Et puis, il vous demande d'aller, vous, hein, donc les personnages, voir ce qui se passe à l'intérieur du village, de manière, en faisant attention, comme tu dis, en vous réexpliquant qu'évidemment, l'objectif est de voir ce qui se passe et d'essayer de trouver donc Colosse, hein, qui est le leader des Pictes Vagomaghi, puisque c'est avec lui normalement que vous devez faire une tractation. Comment est-ce que vous allez approcher le village alors?
C'est une bonne question, mais
on a quoi comme type d'unité? Est-ce qu'on a des guerriers avec boucliers et lances? Parce que dans ce cas-là, on peut les faire passer à l'avant et puis on crée une défense en cercle.
On est nous quatre, hein. Voilà, juste.
Non ? Oui, pour l'idée ici, c'était que il allait juste vous envoyer vous pour voir ce qu'il en était, quoi.
D'accord, très bien. On part comme ça. Ouais.
A priori, est-ce qu'on a des raisons particulières d'y aller particulièrement discrètement ? Enfin, on est censé être là officiellement vis-à-vis d'eux. Et ce qui a l'air suspect, c'est que le village a l'air vide. Donc, ce n'est pas non plus une raison nécessaire pour se cacher.
C'est vrai que je me rends compte que ça n'a peut-être pas été... Je ne l'ai pas dit explicitement, mais en fait, le leader des Vagomaghi vous attend. Hein, donc, il y a déjà eu des échanges. Ici, c'est pour faire les tractations officielles, mais normalement, ils étaient supposés vous accueillir au village comme un envoyé de Rome, quoi. Donc c'est pour ça. Bon, et maintenant la seule chose qui cloche à ce stade, c'est un peu l'intuition du centurion, quoi.
Alors, on approche, je dirais, en approchant prudemment, mais sans particulièrement se cacher ni quoi que ce soit, quoi. Enfin, me semble-t-il. Sauf si.
Non, je suis d'accord.
Pareil.
Donc vous descendez la colline et vous arrivez à l'entrée du village, enfin ou de la ville. Hein. Et il ne faut pas que vous alliez, vous n'avancez pas très loin avant de remarquer que vous trouvez le premier corps qui a été, dépecé exactement de la même façon que ce que vous avez trouvé dans les bois. Et puis vous continuez à vous avancer dans le village et vous en trouvez d'autres et d'autres et d'autres.
Étrange quand même les traditions, Pipta.
C'est peut-être une tradition de bienvenue, effectivement.
Est-ce qu'ils ont une maison qui est un peu comme l'hôtel de ville, un bâtiment qui sort un peu plus que les autres?
Il y aurait certainement la maison du chef, mais ton personnage, à mon avis, ne saurait pas l'identifier.
Mmh. Ouais, si vous faites un jet de... Le mien devrait savoir l'identifier, non?
Ouais, mais on va dire que tu peux faire un... Pour tous les autres personnages, mis à part le druide, c'est un jet extrêmement difficile de Britannica. Et pour le druide, c'est un jet juste difficile.
Ouais. Je pense que je rate.
Britannica, je rate. Par défaut, il y a un score ou pas? Parce que moi, je ne l'ai même pas.
Certains ont un score dedans. Donc, mais sinon, non, par défaut, il n'y a rien.
D'accord.
J'ai raté.
Ouais, d'accord. Donc non, vous n'avez pas, vous ne connaissez pas assez bien les mœurs de cette tribu pour avoir une idée de ce genre-là, quoi.
C'est Britannica, s'il y en a pas, de toute façon, tu veux qu'on roule quand même et tu.
Bah, de toute façon, par défaut, ça va être 1%, quoi. C'est ça que ça sera. C'est qui les personnages qui n'ont pas de Britannica?
C'est moi, l'auxiliaire, typiquement.
Bah, c'est Guillaume et Xavier, ouais.
Bah ouais, vous êtes le Romain et le Gaulois. Bah non, vous connaissez pas.
Le Gaulois, ouais.
C'est logique que vous l'avez pas. Vous avez 1%, quoi, donc. Vous pouvez jeter si ça vous si vous pensez. Il y a toujours
une chance. Moi je lance quand même. Attendez, je vais le faire dans Rolls parce que si ça réussit, on va dire que je triche.
Ouais, c'est ça.
Bon, c'est raté.
Hein, dans Rolls, les choses se passent pas de la même manière, Xavier.
Hey, oh, merde. Hey, j'ai fait un screenshot au moins. J'essaye de prouver mon innocence. J'ai des preuves. J'ai preuve de ma réussite.
Je suppose que vous.
On n'y croit pas, mais.
T'as photoshopé ça.
En deux secondes, photoshopé pour le podcast. J'ai préparé un Photoshop d'avance au cas où ça arrive.
Là, je pense qu'on a identifié le problème. Est-ce qu'on explore plus avant tout seul, tous les quatre, ou est-ce qu'on revient faire notre rapport et qu'éventuellement, pour le coup, on vient un petit peu.
Mais t'as raison, qu'on irait s'enfoncer là-dedans alors qu'on voit bien que c'est carrément pas accueillant, quoi. Et
par curiosité, quoi.
C'est curieux, toi,
étrange,
le druide.
Hein, cette tradition picte.
Bon, moi, je pense que le druide nain est très curieux, donc il faut le laisser explorer.
De toute façon, on va dire, juste pour faire avancer la scène, que vous finissez par, de toute façon, à alerter... Calvus, hein, donc le responsable romain, et il fait rentrer tout le monde dans le village. Il vous ordonne de faire un état des lieux, de vraiment fouiller un maximum le village pour voir s'il y a des survivants.
Jeu de santé mentale pour toute l'armée.
Oui, bah, c'est comme ça quand on est légionnaire, qu'est-ce que tu veux. Et vous vous rendez compte que vous commencez à parcourir les maisons, les environs, etc. Et votre estimation, c'est qu'il y a au moins 600 cadavres, femmes, enfants, hommes. Et apparemment, ils ont dépecé même les vaches.
Voilà. Ils ne trouvent pas de survivants, bien sûr, j'imagine.
Tu peux me faire d'abord un jet de santé mentale?
À l'aise.
On en fait tous ou?
Oui, c'est pour tout le monde quand vous prenez conscience de l'ampleur du massacre. Quoi.
C'est gratuit, c'est offert, ok.
Attends, 40 sur 40, c'est une réussite ou un échec?
Oui, c'est une réussite.
Ma réussite aussi.
Réussite.
Ouais, super réussi.
Tous ceux qui ont réussi ne perdent que 1 et ceux qui ont raté perdent 1 des 6.
Ah, on perd quand même.
Ouais, ça commence à devenir un peu plus sérieux.
Et alors là, sur 600 personnes, moi j'explore quand même en ayant espoir de pouvoir trouver des traces ou des empreintes, des traces, quelque chose qui me donnerait une idée de ce qui aurait pu se passer, quoi.
Ah, mission accomplie, hein, on est alliés avec tout ce qui reste de la tribu.
Ils sont d'accord pour rejoindre l'Empire romain.
Chef, mission accomplie.
Oui, vous pouvez me faire un jet de Spotiden.
T'es sûr? Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose.
Je ne veux pas voir, je me cache les yeux.
Raté.
Oh, je me suis planté, moi, 97.
Moi, bien planté aussi.
Moi, j'ai réussi, j'ai peut-être même fait une réussite. Non, j'ai eu une réussite normale.
Mmh. Moi, j'ai un échec critique, quoi.
Comment ça?
J'ai fait 92.
Ah.
J'ai 97. Je suis battu par Xavier.
Ouais, là, c'est ça y est. Ça m'a, après tous les bons jets, là, c'est le temps de passer les mauvais.
Ok. Mais est-ce qu'il y a une personne qui a réussi ou pas du tout?
Moi j'ai réussi, ouais. Okay. 25,
donc,
c'est normal.
D'abord, ça c'était pas pour le jet, mais de manière générale, vous commencez à entendre que les autres soldats deviennent très nerveux, ils commencent un peu à paniquer. vous voyez, qui se mettent à murmurer parce qu'ils ont aussi perdu de la santé mentale. Hein. et vous entendez les hommes qui commencent à vraiment mentionner de plus en plus donc, la tribu des Kusites. Hein, donc, c'est peut-être une attaque des loups-garous qu'on est en danger si on reste là. Enfin, c'est surtout évidemment les auxiliaires, hein, pas les vrais centurions. Qui
peut-être que notre compagnon druide pourra leur parler, leur remettre un peu la confiance.
Ouais, parce que je suis un peu mauvais orateur.
Parce que dans ce cas-là, moi, je vais monter sur la boîte à savon et leur dire que ce sont des soldats de l'Empire romain qui n'ont pas à croire en telle supercherie et que le moral doit rester fort.
Alors, pour le coup, je pense que ce serait plutôt à moi de faire ça.
Ouais.
Et je veux bien, en effet, faire un discours galvanisant. J'ai persuadé à 70, je pense que c'est...
Ah bah oui.
Donc le prêteur va se lancer dans une tirade. Vas-y, mobilise les foules.
79, c'est un échec.
Qu'est-ce que tu leur disais?
Je leur disais de reprendre confiance en eux et qu'il n'y a pas de souci, que ça ne peut pas être des loups-garous, que les loups-garous ça n'existe pas.
Du coup, tu empires encore la situation, ouais, en fait, puisque comme ils ne te croient pas.
Ils disent que si un prêteur romain se prend la peine d'intervenir, c'est qu'ils sont vraiment dans la mise.
Pitoyable, quoi.
Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des loups-garous. Voilà, et alors
Il n'y a pas de complot. Je...
Et c'était encore qui avait réussi le jet de Spotiden?
C'était moi.
C'était David.
Pour le coup,
t'as quand même réussi un jet, alors. Ouais. Ok, ben donc, tu étais en train de regarder un peu autour de toi, et tu remarques une hutte qui attire ton attention. Elle attire ton attention parce que la porte et les fenêtres, tu remarques qu'elles sont toutes fermées, parce que la plupart des maisons, les portes étaient ouvertes, hein, elles ont été défoncées, etc. Mais celle-là, les portes et les fenêtres sont fermées, barricadées.
Soldats, allez voir dans cette hutte.
Qui va voir?
Tu t'es adressé à qui en disant soldat?
Oh, bah là, limite, on pourrait... je prends pas un joueur, je prends un soldat normal.
On pourrait faire un plan d'attaque, il y en a un qui passe par le toit, un pas derrière et l'autre devant.
C'est toi le centurion, hein?
Ouais, moi, je propose d'organiser ça en tactique. J'organise une tactique d'assaut au cas où il y a quelqu'un qui nous attend à l'intérieur.
Ouais, tu donnes quelques ordres pour un peu encercler la barricade.
J'ai tactique en skill, hein, je sais pas si tu...
Oui, mais si t'as même pas besoin d'un jet, c'est pas...
D'accord.
Je te l'accorde automatiquement.
Ok, très bien.
Et vous rapprochez lentement mais sûrement de la hutte. Et quand tu prêtes l'attention, tu entends... de la respiration à l'intérieur, comme si... Enfin, ton impression générale, c'est qu'il y a peut-être des survivants à l'intérieur, mais qui essayent de ne pas faire de bruit parce qu'ils pensent que vous êtes encore des méchants, mais t'entends quand même un peu de la respiration, comme s'il y avait un enfant ou quelque chose comme ça.
D'accord. Je les connais, les traquenards, donc je prépare quand même un plan d'attaque, quoi. Donc juste 3 soldats, il me faut 2 soldats, et puis moi, je rentre dedans en même temps avec eux. Donc,
si juste, on encercle le truc, on peut carrément leur dire de sortir.
Ouais, on peut faire
si on,
ça.
Si on sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, histoire de pas rentrer si jamais ils pensent que c'est une agression et qu'ils nous sautent dessus, ça peut être.
Ouais, on peut. On a une armée, donc ouais, si tu veux, on peut faire ça. Bah écoute, je sors mon glaive et je tape sur la porte avec.
Tu veux dire, tu frappes à la porte pour attirer l'attention?
Ouais.
Et tu dis quelque chose ou... Enfin, quelqu'un dit quelque chose?
Le druide, ouais. Peut-être pourrait parler en picte,
ça me paraît stratégique.
Ouais. Donc je donne quelques coups et puis je laisse place au druide pour causer.
Qu'est-ce qu'il dit le druide?
Nicolas.
Le druide a disparu.
Il s'est transformé en loup-garou.
Je m'étais mis en mute, désolé. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un?
D'accord, donc tu parles en picte et tu demandes est-ce qu'il y a quelqu'un.
Quand tu le repasses pour parler en picte ou ça va?
Non, tu es le traducteur officiel, donc je l'accorde automatiquement aussi, pour faciliter la vie. Effectivement, tu entends une réponse à l'intérieur, un petit cri de joie. Et quelques secondes plus tard, il y a une femme qui sort, accompagnée d'une petite fille de 7-8 ans. Elle s'extrait de la maison. Et donc, vous avez trouvé deux survivants. Et elle dit donc au druide, je suis... la femme, elle parle. Elle dit, je m'appelle Kessa. Et ceci, c'est Senna. Attendez, je suis en train de me planter dans les nombres. Attendez une seconde. Il y a Senna, Brigantos et Kessa. Donc, en fait, il y a un petit garçon aussi. C'est ça qui me perturbait. Donc, il y a Senna qui est la maman. Elle vous présente Brigantos, son fils, qui a 8 ans, et une jeune fille qui n'est pas sa fille, qui a 6 ans. Et elle, évidemment, quand elle sort, elle est un peu surprise de voir tous les soldats romains qui sont là. Mais elle a visiblement moins peur que vous, que de ceux qui ont attaqué la ville. Quoi. Donc, elle est quand même un peu rassurée. Elle essaie de maintenir les enfants derrière elle pour les protéger au cas où quelque chose se passerait. Quoi. Qu'est-ce que vous faites ?
Druide, demande-lui ce qui s'est passé.
Ouais, j'avais eu demandé ce qui s'est passé.
Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. J'étais à l'extérieur du village. J'avais remonté la rivière jusqu'à un autre village pictin des Vacomagi. Je suis revenu récemment, j'ai découvert le massacre. Et j'ai trouvé cette petite fille et j'étais avec mon fils évidemment et j'ai trouvé cette petite fille on a décidé de passer la nuit ici alors on s'est barricadé dans la maison.
Quelle idée.
Je demande à l'un des soldats de leur donner un peu d'eau.
Ouais, évidemment ils ont très soif et très faim, ils sont très contents que vous leur donniez à boire.
Et puis du pain, ouais.
Oui, la nuit est sur le point de tomber avec tout ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, tu peux penser qu'elle n'avait pas envie d'aller dans la forêt. Elle savait que la distance vis-à-vis de l'autre village était assez importante. Se retrouver dans la forêt avec ce qu'il y a de plus et tout ça, c'est dit que c'était plus stratégique de rester dans une maison barricadée. Quoi.
On lui demande...
Juste la petite fille, elle est un peu comme dans Alien 2. Hein, oui, elle est complètement terrorisée. Enfin... vous voyez qu'elle a été extrêmement traumatisée. Et effectivement, vous comprenez qu'elle a dû voir des choses, quoi.
Et puis elle nous le dit, c'est la nuit, c'est quand ils sortent le plus, c'est ça.
Alors on peut demander, du coup, on peut essayer de.
Non, ça elle ne dit pas. Tu projettes des choses là. Mais...
enfin, tu me dis aliens, donc tu me dis mute, alors tout de suite, je pense au fameux dialogue. Ouais.
D'accord. Et, on peut demander.
C'était surtout pour donner l'aspect traumatisé de la
fille. Oui, bien sûr.
Mais donc la maman, de toute façon, la seule qui parle pour l'instant, c'est Senna. Elle a rien vu, mis à part les corps, donc elle ne peut rien vous dire sur les attaquants. Quoi.
Bonjour ma petite.
Enfin, oui, d'accord.
Nico, plutôt.
Ouais, je voulais lui parler, lui demander ce qu'elle avait vu, mais a priori, c'est pas possible pour l'instant, c'est ça?
Si, il faut arriver à la faire parler. Je pense que David avait.
Je vais utiliser mes talents d'orateur quoi, pour lui demander. Bon, alors raconte-moi ce qui s'est passé.
En vérité, il faut plutôt des talents de insight pour gérer les gens qui ont été traumatisés dans la peau de Cthulhu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a de l'insight.
Non, parce que c'est pas un talent de base.
Ouais, moi, j'ai un peu d'insight, ouais.
Ah,
je peux tenter mon coup du coup.
Bien sûr, je t'en prie. Qu'est-ce que tu lui dis à cette brave fille avant de faire ton jet?
Ouais, alors j'ai fait mon jet qui est passé. Je lui suis demandé ce qui s'est passé en fait.
Ouais, mais comment tu t'y prends? Je veux dire, tu vois qu'elle est vraiment terrorisée, elle a les yeux vraiment, tu sais. Elle se cache derrière la maman là.
Bonjour.
Elle a visiblement très peur de toi.
tu es en sécurité, on est là pour t'aider. Les méchants ne vont plus faire de mal.
J'ai dit que ça y est, les méchants sont partis, qu'ils ne reviendront pas, qu'on est là pour la protéger et lui demander juste si elle a vu quelque chose, discrètement.
elle vous raconte alors que... Parce que tu as réussi ton jet, tu me disais. Donc Kessa, c'est son nom, elle dit qu'elle s'appelle Kessa et qu'elle a 6 ans. Et... quand elle arrive enfin à se calmer, après que tu lui aies parlé, qu'elle ait pu boire de l'eau que le centurion lui a donné, hein, elle finit par raconter ce qui s'est passé. Hein. Et en fait, un grand nombre de maraudeurs vont attaquer le village. Donc le druide il comprend que ce qu'elle veut dire par là c'est une autre tribu de Pictes, hein, donc pas la tribu des Vacomagi, hein, des autres Pictes puisqu'il y a plusieurs tribus. Et ils n'ont pas sonné l'alarme, ils n'ont pas donné d'avertissement. Ils avaient évidemment leur corps complètement tatoué. Et à ce moment-là, donc, elle a vu l'attaque et sa maman en fait l'a pris et lui a dit de se cacher dans un trou, hein, quelque part. Et elle a entendu juste les hurlements, etc., de terreur. Enfin, du combat. Elle savait pas trop ce qui se passait, quoi. Hein. Elle s'est cachée. Et elle a juste entreaperçu. Et là, même le druide, il comprend pas trop ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, il y avait quelque chose avec les autres Pictes, quoi.
On est d'accord qu'il y a que des cadavres du village Pict qu'on venait voir, des Varumagi, c'est ça. Et qu'ils se sont tous fait dépecer de la même manière que ceux qu'on avait trouvés pendus à l'arbre avant.
On est tous d'accord, ouais, c'est ça. Ouais.
Ok. Donc c'est, enfin, parce que normalement, si jamais c'était une autre tribu qui les avait attaqués, enfin, on pourrait imaginer que, enfin, ils en auraient au moins tué un ou deux, enfin, même en se faisant attaquer par surprise, enfin, 600 personnes.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Ouais. Ah, c'est difficile à dire pour vous, de toute façon, d'identifier des tribus de Pictes. Donc, à vrai dire, maintenant que tu te poses la question, tu te dis, tu n'es pas certain que si dans les corps que vous avez trouvés, il n'y ait pas de Pictes qui ne soient pas d'une autre tribu, quoi. Tu
vois. Mais ce serait très bizarre qu'ils se soient fait dépecer pareil, les Pictes de l'autre tribu.
Ah oui, d'accord, oui, comme ça, ouais. Oui, je vois, ouais.
Enfin, à moins que.
Non, enfin... c'est une très bonne réflexion, ouais. Eh bien, alors, à ce moment-là, en tout cas, vous n'avez trouvé que des corps dépecés, quoi. Voilà, on va répondre ça comme ça.
Soit les Pictes ont vraiment des traditions très bizarres et ils dépecent leur propre troupe si jamais ils perdent au combat, soit il y a un truc de chelou.
Ouais. Et donc, la traduction, la seule chose que peut comprendre le druide dans ce qu'elle dit, c'est que les choses qui enfin, elle a entreaperçu quelque chose de non humain, quoi. Mais dans les trous, quand elle regardait, quand elle se cachait, et la seule chose qu'elle dit, c'est les hommes des étoiles, quoi. C'est la seule traduction que tu peux penser de ce qu'elle dit. Évidemment, ça veut rien dire pour vous, quoi.
Moi, j'ai envie de demander à. Alors, excuse-moi sur les noms, hein, j'écorche peut-être, mais à Mamilus, Lentulus et à Strabo, si je me trompe pas, c'est les natifs là qui nous accompagnent, pour leur demander si ça leur dit quelque chose, les hommes des étoiles, ou s'ils ont une idée de ce qui a pu se passer ici.
Mm-hmm. Mais avant de passer à ça, Kessa, elle vous rajoute quand même une autre information très importante, c'est qu'il y a. Beaucoup d'hommes ne sont pas morts et ont été emportés par les Pictes, quoi, et les hommes des étoiles.
Alors, est-ce que, par hasard, on saurait si notre contact, j'ai oublié comment il s'appelait, le mec qu'on venait venir voir, s'est fait emporter ou s'est fait buter ?
Il s'appelle Colosse.
Colosse.
Non, en fait, elle a entreaperçu Colosse qui se battait avec toute sa force physique contre cette tribu de Pictes, et puis il a succombé. Elle a entreaperçu qu'il succombait face à une de ces hommes des étoiles, et il a été emporté. Il a été clairement emporté. Elle est certaine qu'il a été emporté par les créatures.
Ah d'accord, parce que quand elle disait emporter, ça veut pas forcément dire qu'ils sont emportés vivants. D'après son témoignage.
C'est une petite fille traumatisée, donc ouais. elle est pas très claire sur la chose, tu vois. Surtout avec l'angle de vue qu'elle avait sur le combat. Quoi. Mais il y a un doute. Vous n'êtes pas certain, en fait. Vous savez pas si la question c'est est-ce qu'il est mort ou pas, vous en savez rien sur base de ce qu'elle vous dit.
Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller essayer de le rechercher, sachant qu'il reste plus grand chose de son village avec lequel s'allier
Non, mais là justement, la question c'est un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi.
Je m'adresse à tout le monde, les compagnons chefs. De toute façon, comme tu nous as expliqué, Jean-Michel, la nuit arrive bientôt, c'est ça?
Oui, la nuit, maintenant on va dire qu'elle est tombée, maintenant que vous avez fait ça, ouais.
D'accord, bah écoute, c'est qu'on organise déjà un QG ici, dans ce village, qu'on couvre toutes les entrées avec les soldats qu'on a, et puis qu'on installe une... tu sais, qu'on prenne une maison, qu'on installe comme centre principal, pour se poser, nous, tous les généraux, tous ceux qui sont en tête.
On est combien en tout?
Vous êtes une vingtaine, en plus, plus vous, quoi, donc 24.
C'est qu'on soit aux aguets ce soir, au cas où.
Dans les 20, c'est pas tous des soldats aussi. Hein. Je dirais, il y a des caravaniers, enfin des trackers, enfin des fameux scouts qui chassent. Bon, c'est tous des gens qui. Et votre impression générale, c'est que parmi les soldats, c'est quand même des jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Le centurion, là, donc le personnage de Xavier, c'est un qui est beaucoup plus expérimenté d'ailleurs. Ce qui explique qu'il soit un peu le chef.
On fait des tours de garde, on se barricade bien. Et
c'est ça, comme je connais un peu les hommes qui sont avec nous, je mets ceux que je sais qu'ils ont, ils ont le moral un peu plus haut et surtout une endurance, comme ça ils peuvent résister la nuit, c'est pas s'endormir à leur poste.
Après, ceci dit, dans ce contexte, je crois qu'ils sont particulièrement motivés pour pas s'endormir.
Oui, à mon avis, ouais. Tellement traumatisés qu'ils ne dormiront plus pour les 15 prochains jeux.
Ouais, c'est parfait. Et voilà, juste ce que j'essaye de développer comme tactique là, pour qu'on puisse au moins poser ici la nuit et être au maximum à notre garde.
Très bien. Oui, Calvus te laisse faire tout ça, parce qu'il y a quand même une chaîne de commandement. Hein, et celui qui prend les décisions, c'est Calvus, mais il te laisse gérer la défense, ouais, parce que bon, il est aussi un peu pas très rassuré par la situation.
Je lui demande un peu ce qu'il veut faire, Calvus. Est-ce qu'on rentre? Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Colosse?
Oui, quand tu lui parles entre quatre yeux, hein, quand il n'y a pas d'autre oreille pour entendre, tu dis oui, on ne peut pas rentrer la queue entre les jambes. Ce serait la disgrâce à Rome. C'est trop important. Je pense.
Je veux dire, en même temps, si jamais on le retrouve, qu'est-ce qu'on va faire?
Ben écoutez, justement, c'est l'opportunité de leur montrer la puissance des Romains. Il faut qu'on est là pour les aider, quoi. Ça les convaincra, les survivants et aussi les autres tribus pictes, de dire si qu'on peut gérer ce genre de situation, qu'on peut être des alliés fiables. Et donc mon intention, c'est que demain j'envoie le groupe différent, qu'on se sépare en différents groupes et qu'on fouille, essayer de trouver des traces pour voir si on arrive à voir où les gens qui ont été emmenés ont été emmenés.
J'insiste sur le fait que je trouve que c'est une très mauvaise idée, enfin j'essaie diplomatiquement quand même de lui dire que je trouve que c'est une très très mauvaise idée de se séparer au vu de la dangerosité des troupes qu'on a. Je pense qu'il faut que dans tous les cas on reste groupés, je veux dire la force de l'armée romaine, c'est formations compactes.
Oui, mon cher ami, j'insiste de cette façon-là.
J'insiste avec toi là-dessus, ouais.
T'es pas là, mais
oui, c'est une conversation de patricien, mais
ah d'accord.
Mais il dit il faut qu'on, on sait pas combien de temps il sera, s'il est encore vivant, on sait même pas si on est même pas certain s'il est encore vivant, donc il faut agir vite, quoi. De toute façon, les ordres que je vais donner, c'est qu'on trouve des pistes, mais pas qu'on intervienne sans qu'on ne se soit regroupé, évidemment. Et donc la nuit se passe de cette façon là, sans incident. Et le lendemain matin, donc, Calvus donne ses ordres. Et effectivement, et donc, il demande aux soldats, enfin aux PNJ, donc, de chercher des traces dans les environs pour voir si on arrive à déterminer dans quelle direction les gens auraient été emmenés. Et puis, il vient vous voir, vous. Et il dit, j'ai une mission un peu particulière pour vous. Hein, la maman, hein, Senna, Elle a révélé que il existe une sorcière dans la montagne. Et je pense que ce serait une bonne idée que vous alliez parler avec elle. Elle sait peut-être quelque chose sur la situation. Elle a peut-être une idée de où ils ont emmené ces soldats, quoi. Je dirais aux autres hommes de, j'ai entendu vos remarques, hein, je dirais aux autres de pas aller ne pas aller trop loin. Et je n'irai pas trop loin moi-même avec, avec mon groupe de soldats. Et, mais simplement, on va voir les environs. Mais peut-être qu'elle, elle saura nous donner plus d'informations.
On y va.
Allez voir la sorcière.
J'aimerais discuter avec les en-têtes, là. Franchement, pourquoi est-ce qu'on partirait faire ça?
Le personnage est censé engager le scénario du...
Bien sûr.
Non, moi je suis pas confiant du tout.
Le personnage est censé obéir. Le personnage est censé engager le scénario, mais ok, mais je veux dire, si vous avez de bonnes raisons pour ne pas y aller, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous avez aussi votre libre arbitre.
Si je dis ça, c'est pas qu'on y aille, c'est un peu qu'on se donne une résolution. Pourquoi tu en y vas? Donc j'essaie d'engager cette discussion là.
Justement, quelles sont les autres options?
Bah, là, il se passe quelque chose d'assez bizarre. On a tout intérêt à essayer d'élucider ce qui se passe pour pas que ça détruise complètement tout ce qu'on connaît du monde actuel, etc. Quoi.
Peut-être pour éviter la propagation vers notre royaume.
Ouais.
Non, mais vers notre empire, je veux dire.
Ouais. En gros, soit on part du principe qu'il faut fuir je sais pas. En référé à Rome ou à je ne sais quelle autorité supérieure, mais l'autre, il n'a vraiment pas l'air d'être motivé pour cette possibilité-là. J'en ai un peu touché un mot hier soir. Soit on enquête. Ça peut être une piste très suspecte, mais on n'a pas trop d'autres options. Non.
Alors, comment est-ce que vous voulez qu'on s'y prépare?
Et en plus, on vient de lui donner un ordre. Moi, éventuellement, je suis vaguement susceptible de pouvoir le discuter, mais...
Et moi, je suis pas sûr non plus de dépendre de la hiérarchie, mais bon. Non, mais je pense qu'il y a une notion
en
de...
En tout cas, les deux soldats...
moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que connaissant la région et les traditions pictes, c'est pas commun de voir des gens dépecés comme ça, donc il se passe quelque chose de pas normal, et ça a l'air de progresser, et si on veut pas y passer nous aussi, il va falloir comprendre ce qui se passe, quoi.
Autant qu'on engage le problème alors.
Ouais.
Comment est-ce qu'on s'y prépare?
Je le précise parce que c'est un aspect un peu différent de l'appel de Cthulhu classique, mais vos personnages sont quand même tous des gens superstitieux, hein, donc on vous a dit qu'il y a une sorcière. Pour vos personnages, les personnages ils croient quand même. Enfin voilà.
On y croit un peu à tout ça.
C'est pas des gros sceptiques rationalistes ces gens. Donc.
Mais la superstition, ça porte mal.
Tu vois, c'est un peu comme aller voir la Sibylle ou pour vous, vous dites. Enfin, il y a ça peut ne pas vous motiver à y aller, mais.
Mm-hmm. Moi, j'ai jamais vu de sorcière. Hein. Ça me donne bien envie, quoi.
C'est comme si on partait à Disney.
Oui, je suis pas sûr que quand les Romains allaient voir ou les Grecs allaient voir la Sibylle, ils avaient l'impression d'aller à Disneyland. Mais...
Alors, ce que je... bah,
est-ce qu'elle va si me prédire plus d'argent?
Bah là, vu déjà comment l'Empire nous paye, je sais pas si on peut demander plus.
Bon, en tout cas, moi, mon personnage, il est pas chaud du tout. Moi, je vous accompagne si vous voulez pour. Pour vous prêter main forte sur le chemin. Moi, je veux pas rentrer en discussion avec des personnages comme ça. Mais je veux bien vous accompagner, en tout cas.
Moi, de toute façon, je traite bien les sorcières, elle parle que picte, donc à ce compte-là, je vais être obligé d'y aller.
Il nous faut un traducteur. Ouais, il nous faut un traducteur et il nous faut aussi...
Au début, je suis un esclave, en fait. Je suis pas...
Je me pose la question au niveau soldat. Ouais, on pourrait peut-être demander à prendre deux autres soldats avec nous.
C'est ce que j'allais faire, justement, j'allais voir le chef qui s'occupe des soldats et qu'on lui demande trois de ses guerriers les plus forts.
Oui, il bougonne un peu parce qu'il dit « T'es sûr que tu veux vraiment ça ?» Puisque on nous a envoyé explorer la rive sud de la rivière. Je pense qu'on aurait besoin de nos hommes. Tu, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette forêt.
C'est pour ça que vous allez nous attendre. Vous allez poser camp ici dans ce village et vous attendez notre retour.
Ouais, mais en tout cas, Calus lui-même a décidé de prendre un groupe de soldats et Calvus lui-même a décidé de prendre un groupe de soldats et d'aller explorer, essayer de voir s'il arrive à suivre les traces.
Ce qu'on peut faire, c'est suggérer aux soldats de rester, enfin de respecter les ordres de Calus, mais en restant le plus paquet possible et jamais laisser un mec explorer tout seul, quoi.
Bien sûr, ouais. Bah, de toute façon, ils font des escouades de 5.
Ouais, ça, ça me paraît très raisonnable. Ouais. Oui, et en plus, Calvus, le leader romain, il dit « Ok, je vais aller explorer » parce que voilà, il veut montrer l'exemple pour justement un peu rassurer les troupes. Mais lui, il en prend... Si tu fais des escouades de 5, lui, il prend un groupe avec 6 ou 7 personnes, quoi, en plus.
Très bien.
Parce qu'il veut quand même sa petite protection.
Et donc, en gros, il y a 3 escouades, quoi.
Ouais, ça me paraît
3,
ça, ouais.
3 groupes qui explorent.
Plus vous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça me paraît juste, ouais.
Très bien.
Ok, bah écoutez, vous montez sur la montagne. Donc, ils vous ont peut-être rajouté encore un ou deux soldats après la demande. Donc, vous montez voilà, sur la montagne et vous arrivez dans la zone où habite la sorcière.
Oui. Est-ce qu'on voit des changements dans la forêt? Il y a des différences, des petits gris-gris qui sont accrochés un peu partout ou...
Oui, c'est tout à fait ça, oui, effectivement. Tu vois des drôles de marques un peu partout. Tu vois que tu arrives dans la zone où elle habite. Elle a un peu marqué son territoire avec différentes choses. Et vous trouvez dans le flanc de la grosse colline où vous êtes, vous trouvez l'entrée d'une grotte. Et vous vous doutez que c'est là que se trouve la sorcière. Quand vous rentrez, elle habite à l'intérieur, il y a un petit feu de camp, c'est vraiment un costume de survie, elle a mis ses gris-gris, elle a des bougies un peu partout, elle est habillée de peau de bête, et évidemment elle est d'un âge incertain, et elle ne se lave pas les cheveux, enfin ça ne se lave pas du tout probablement, elle a les cheveux complètement... tout blanc et elle se ouais, voilà elle a jamais lavé les cheveux donc
elle y entretient des nids d'araignées
exactement oui mais même comme ça vous pouvez pas dire qu'elle est pas attractive elle a une sorte de feu qui brûle dans ses yeux et quand elle vous voit elle vous fait signe de venir vous asseoir autour du feu
et elle est dans une petite hotte c'est ça.
Non, à l'intérieur d'une grotte.
D'une grotte, très bien.
Donc, il faut d'ailleurs que vos yeux s'accoutument un peu à l'obscurité de la grotte et à l'éclairage unique des bougies.
On laisse peut-être un soldat monter la garde ou deux soldats monter la garde à l'extérieur de la grotte.
Ouais.
J'avais cru comprendre que l'acolyte ne voulait pas rentrer à l'intérieur.
Ouais, moi je reste un peu à l'entrée, je reste en retrait avec et je regarde soldat. Plus à l'extérieur avec un soldat.
Qu'on soit trois alors qu'on rentre avec le druide bien sûr qui nous accompagne.
Et on a au moins deux soldats en plus donc on rentre à quatre avec un soldat quoi.
Ouais. Très bien.
L'autre soldat qui reste dehors, il sourit à l'acolyte, il dit ah, je suis vraiment bien content de pas devoir rentrer là-dedans. Ouais, c'est sorcière, ça sent mauvais quoi.
Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi, ça pue.
Ces Pictes, ils ne vénèrent pas les mêmes dieux que nous. C'est vraiment des sauvages.
On est bien
et donc vous retrouvez, vous êtes en train de vous retrouver. Les autres se retrouvent face à la sorcière et elle attend que vous lui parlez. Elle vous dit quand même que je m'appelle Scylla. Elle parle en Picte évidemment, uniquement en Pictish. Elle ne connaît pas le latin.
Nico, vas-y, mais explique peut-être ce qui s'est passé dans le village.
Bon, si là, a priori, tu es au courant qu'un village a été décimé et que des gens ont été dépecés tout près d'ici, et il paraît que tu en sais plus, que tu pourrais nous en dire plus, parle.
Alors vous savez, je suis vraiment très vieille et le temps est difficile, le climat est vraiment difficile en cette saison. Une vieille femme comme moi pourrait utiliser... une de ces six jolies vestes que vous avez ou un peu de métal.
moi j'ai qu'une toge hein.
C'est comme au clochette,
c'est guère plus chaud que ce que vous avez et après ça va être indécent.
Je vais
Elle parle évidemment des vestes des soldats romains qui ont quand même des belles vestes bien rembourrées.
Ouais, on demande au soldat qui nous accompagne de lui donner sa veste. Voilà. On a bien fait d'en prendre un.
Évidemment, il n'est pas très content, mais il respecte l'ordre que tu lui donnes. Il a un what the fuck dans ses yeux, enfin voilà. Et il tend la veste. Et une fois la veste, la sorcière met la veste et elle a l'air toute contente avec ce nouveau vêtement. Parce que tout le reste, c'est vraiment des peaux de lapin, etc., qu'elle a juste rapiécé ensemble. Quoi. Et oui, alors, visiblement, tout d'un coup, elle devient plus causante, elle est plus susceptible de répondre.
Et elle est au courant, du coup, que tous ses potes se sont fait massacrer ?
David, je t'entends plus très bien.
Elle est au courant que tous ses potes se sont fait massacrer ?
Oui, quand tu mentionnes ça, elle hoche la tête nerveusement.
Mais elle est plus intéressée par la veste de...
Maintenant qu'on lui a donné quelque chose, en demandant l'échange, de nous dire qu'elle nous raconte ce qui s'est passé et qu'elle nous explique l'histoire de ces terres, d'où vient cette chose invisible qui a apparemment détruit tout un village.
Oui, donc il y a 2 jours, j'ai observé un groupe de guerriers pictes qui chevauchaient. Et je les ai reconnus, hein, c'était des étrangers, c'est des pictes qui ne sont pas de ces terres ici, mais je les ai reconnus, ce sont des Lugis, une tribu dégénérée qu'on pensait qu'elle était complètement éteinte, mais apparemment il y a encore, ces bâtards existent encore. Et j'ai même reconnu, j'ai reconnu le leader de ce groupe, c'était Drest. C'était un Vakomagi qui avait été chassé du village il y a longtemps. C'est lui qui leur montrait le chemin. J'ai entendu des rumeurs, j'ai eu des visions. Et je sais que les derniers des Lugis sont tombés sous le charme d'un puissant chaman qui les mène. Mais je ne sais pas plus que ça.
C'était bien déjà ce que nous avait dit la villageoise, que c'était des Lugis qui les avaient attaqués.
Elle ignorait le nom de la tribu. Et ici, dans les nouvelles informations qu'elle vous a données, c'est qu'effectivement, ils s'appellent des Lugis. Donc ça, c'est vraiment un nouveau nom.
Okay.
Et que c'est une tribu qui semble avoir été maudite, hein, ou qui a extrêmement mauvaise réputation. Et donc, ce n'est pas la tribu des loups-garous dont on parlait avant. Quoi.
Qu'as-tu vu dans tes visions ?
Quand tu demandes ça, elle pointe son doigt dans un sursaut vers le mur de la grotte. Et vers le mur de la grotte, tu vois un dessin qui a été fait. Elle a fait avec de la glaise, comme ça. En fait, c'est une sorte de peinture à la main. Elle a dessiné sur le mur une étoile à 5 branches. Qui est au-dessus d'une sorte de tonneau. Et elle vous dit, ces créatures sont anciennes, c'est une race puissante, sage et froide, maître en sorcellerie. Et c'est ça que j'ai vu dans mes visions.
Et qu'est-ce qu'elles veulent ?
Elles veulent rétablir leur ancienne puissance. Elles habitent non loin d'ici, dans une montagne sacrée qui s'appelle la Bouche du Diable. C'est là que se trouve leur demeure. Et elles veulent ramener leur puissance à ce qu'elle était dans les temps passés, avant que l'homme ne naisse.
Sont-elles responsables de ce qui se passe sur ces terres ?
Ah oui, bien sûr. Oui. Je pense que les Lugis sont asservis à leur pouvoir.
Ce sont leurs sbires, en gros.
C'est des cultistes.
On lui demande peut-être si, justement, elle a entendu parler des Pictes loups-garous et de la légende qu'on avait entendue avant, et si c'est relié à tout ça ou pas du tout.
Elle dit non, je pense que... que la tribu des Kussites se trouve plus à l'est d'ici. Je ne crois pas qu'ils soient impliqués dans tout cela. Mais elle dit pas que l'histoire des Kussites, c'est pas vrai.
comment as-tu fait pour survivre à l'invasion de ces créatures, à toujours être ici, seul ?
Il n'était pas intéressé par moi. Je suis trop vieille. Il n'avait pas besoin de...
Ouais. Et ce qui les intéresse, c'est les jeunes ?
Oui, de toute façon, elle devient un peu confuse et puis elle dit je ne sais pas si ce que j'ai vu dans mes visions est vrai. C'est... Puis j'avais pris des champignons avant-hier. Et... voilà. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ces étranges démons, ces hommes des étoiles, ils sont intéressés par les hommes forts. Et c'est vrai que si vous faites attention aux cadavres, maintenant que je vous dis ça, vous pensez qu'ils ont surtout abandonné les corps de femmes et des enfants et des hommes qui n'étaient pas très forts, mais tous les gros guerriers ont été emportés. Quoi.
Sauf le mec qui était pendu très haut à l'arbre, qui était un gros guerrier aussi, non?
Non, c'était un jeune garçon, non?
Ouais, c'était un ado, quoi. Voilà. Bien, je propose une pause de 5 minutes, je vais juste faire un peu de thé parce que j'ai soif.